7h42 sur France Culture aujourd'hui, sort sur les écrans la suite du film Blade Runner. Il s'agit de Blade Runner 2049, signé par Denis Villeneuve. C'est 35 ans après la version de Ridley Scott et nul n'est prophète en pays cyborg. On peut désormais relire ce que les studios pensaient de la première version de ce film, un film désormais culte. Donc voici un extrait.
L'humanité ne peut survivre. Les réplicants sont l'avenir de l'espèce. Mais je ne peux en produire qu'en quantité limitée.
Il a toutes les gâchettes de la ville. Je vous ai vous.
Faut l'arrêter à tout prix. Qu'est-ce que tu veux? Vous pourriez m'aider à résoudre une affaire. Il se construit une armée. Dites-moi ce dont vous vous souvenez. Ils savent que t'es ici.
Il est sur vos traces. Je vais venir avec toi.
C'est quoi le plan ?
Morceau choisi de ce qu'ont pensé les studios lorsqu'ils ont vu ce film. On s'ennuie, tout le monde va pioncer. Ce film paraît pire à chaque visionnage. Il y a une pelletée de scènes interminables. Et puis, virez-nous cette atroce musique de synagogue. Rajoutez du Vangelis. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. On va mettre du Vangelis, tiens. Musique de Vangelis que je vais saluer mon invité Gérald Brunner. Bonjour, vous êtes Bonjour. Professeur de sociologie à l'université Paris Diderot, membre de l'Académie des technologies et désormais membre de l'Académie de médecine. Vous publiez un pamphlet avec Étienne Géhin, Le danger sociologique aux presses universitaires de France. Et puisqu'on parle de cyborg, puisqu'on parle beaucoup de data en ce moment, de données, qui a la possibilité désormais d'avoir une connaissance profonde du comportement des êtres humains grâce à ces données que l'on rassemble, êtes-vous certain que la sociologie soit toujours utile?
Ah oui, alors là, j'ai aucun doute sur ce sujet. Au contraire, même, la sociologie me paraît plus utile que jamais, d'ailleurs, si nous avons écrit ce livre, Le danger sociologique, qui n'est pas un pamphlet hein, dans notre esprit, c'est plutôt un essai calmement argumenté sur un sujet brûlant. Si nous avons écrit ce livre, c'est justement avec l'idée que nous avons plus que jamais besoin de la sociologie, et en particulier parce que nous avons cette chance extraordinaire, nous autres les sociologues, dans le monde contemporain, d'avoir accès à de nouveaux types de traces. Hein, parce que justement, comme vous l'avez dit, Internet accumule la data, on a toutes sortes de traces sociales auxquelles on n'avait pas accès auparavant. Par exemple, la curiosité. Qu'est-ce qui nous intéresse? Qu'est-ce qui suscite la curiosité? Eh bien ça, c'était des traces évanescentes dans le monde social auxquelles on n'avait pas accès.
Et alors aujourd'hui, comment fait-on pour savoir ce qui intéresse les gens?
Bah par exemple, vous pouvez utiliser toutes sortes d'algorithmes que nous propose Google. Google Trends, la Google Tendance, les préférences que vous avez quand les mots-clés que vous cherchez dans Google nous indiquent quelque chose. Par exemple, j'ai fait cette expérience en tapant le nom du Premier ministre lorsqu'il a été nommé Premier ministre, et je me suis demandé qu'est-ce qui intéresse nos contemporains. Eh bien, Google Suggest me montrait que dans les 5 premières demandes, eh bien, ce qui intéressait surtout nos contemporains, c'était la vie privée du Premier ministre. Alors, vous voyez, il y a un effet de dévoilement qui n'est pas tellement favorable à une anthropologie naïve et bienveillante, mais en tout cas qui nous apprend un certain nombre de choses. Mais là où la sociologie est en danger par rapport à l'apparition de ces datas, et c'est un élément qui est relativement, qui passe inaperçu, à mon avis, chez beaucoup de collègues, c'est que ces datas sont saisies aujourd'hui comme des objets d'analyse, à juste titre, mais pas tellement par les sociologues.
C'est-à-dire?
Eh bien, naît ce qu'on appelle les sciences sociales computationnelles, et je suis allé regarder qui fait les sciences sociales computationnelles, parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est même une grosse partie de mes lectures scientifiques de ces derniers mois, ces dernières années. Eh bien, la plupart d'entre eux sont des physiciens, des mathématiciens ou des informaticiens. D'ailleurs, moi-même, je dois dire, à Paris 7, je travaille aujourd'hui plutôt avec des physiciens sur ces questions, parce qu'il y a des enjeux énormes, savoir comment se diffuse l'information, à l'heure où beaucoup disent que nous sommes dans une société post-vérité, de fake news, de faits alternatifs, eh bien, on a besoin d'une analyse sociologique pour comprendre qu'est-ce qui se passe au fond.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je présentais votre livre comme un pamphlet. Vous êtes pudique, vous dites que c'est un livre qui comporte une argumentation posée, mais effectivement, vous considérez qu'un grand nombre de sociologues ont un discours qui est bien souvent idéologique. Justement, qu'est-ce que la sociologie pour vous, Gérald Brunner?
La sociologie, c'est tout simple. C'est la volonté d'approcher avec méthode et d'éclairer les phénomènes sociaux, tout simplement. Et c'est certainement pas, c'est en ça qu'il y a un élément polémique sans doute dans notre livre, la sociologie ne consiste pas pour nous à expliquer le social par le social, selon la vieille maxime, vous savez, durkheimienne, d'Émile Durkheim, dans les règles de la méthode sociologique. Car si vous expliquez, si vous avez la volonté d'expliquer le social seulement par le social, bah vous passez à côté d'un certain nombre de réalités. Nous partons du principe que les objets sociaux sont peut-être les objets les plus complexes qu'ils soient, qui sont produits par des cerveaux qui sont eux-mêmes les objets les plus complexes de l'univers, connus, 1 000 000 000 000 000 de connexions, eux-mêmes en milliards d'interactions. Et nous pensons que vouloir éclairer ces phénomènes en fermant les yeux, par exemple, sur leur réalité cognitive, sur leur réalité psychologique, sur les neurosciences, et même, pourquoi pas, sur la biologie, eh bien, c'est être borgne aussi, ou éventuellement même aveugle.
Mais alors, on va prendre des cas très concrets. On a besoin de comprendre la société aujourd'hui, parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes, notamment des phénomènes extrêmes qui sont au cœur de l'actualité. Je pense évidemment au terrorisme, pas la peine d'ailleurs de citer une tuerie particulière, il y en a tant que l'on voit aujourd'hui ce phénomène sous nos yeux, et les sociologues ne parviennent pas du tout à nous expliquer de quoi il s'agit. Et il y a eu toute une tentative de monter des programmes de déradicalisation en France. Vous avez collaboré à l'un de ces programmes, Gérald Bronner, et on voit qu'on a beaucoup de difficultés, pour ne pas dire plus, pour déradicaliser les individus qui décideraient donc de se lancer dans le djihad. Comment expliquez-vous cela ?
Alors d'abord, je ne dirais pas du tout que les sociologues n'ont rien à nous dire sur cette question et sont incapables de le faire. D'abord, il y a beaucoup de travaux tout à fait remarquables sur ce sujet. Mais par contre, c'est effectivement un beau sujet pour rentrer dans notre discussion, parce que c'est un sujet qui est éminemment complexe, en fait. Lorsqu'on analyse les données, vous parliez de data tout à l'heure, il y a quelques données, par exemple, sur le profil des gens qui sont allés en Syrie sur le front de guerre pour combattre. On a plus de 4000 fiches, avec l'âge moyen, le fait qu'ils soient convertis ou pas convertis, le sexe, les raisons pour lesquelles ils sont rentrés dans l'armée de Daesh, semblant parce que c'est Daesh qui a constitué ces fiches. Et il y a eu des fuites et on a pu reconstituer donc l'intégralité des profils de ces combattants. Et quand on regarde ces profils, ils sont extrêmement contrastés.
C'est-à-dire ?
Eh bien, ces profils et la radicalisation ne peut pas s'expliquer avec l'éclairage d'une seule cause. Par exemple, la cause économique ne suffit pas à rendre compte de cet engagement. La cause...
Pourtant, généralement, ce sont des individus qui sont plutôt situés en bas de l'échelle, des marginaux, bien souvent d'anciens petits délinquants.
Eh bien, ça dépend. Ça dépend parce qu'effectivement, c'est l'impression tout à fait rationnelle que nous avons parce que nous sommes en France et qu'en effet, ces dernières années, ceux qui ont frappé sur notre territoire avaient un certain profil, souvent des primo-délinquants en effet, souvent venant de quartiers sensibles, mais pas toujours, je tiens à le rappeler, ayant souvent une rupture aussi dans le cycle d'éducation. Mais ce n'est pas le cas du profil global. Par exemple, sur ces fiches de l'armée de Daesh, on s'aperçoit que le niveau d'études moyen est plutôt indexé sur la moyenne nationale des pays d'origine et même supérieur dans un certain nombre de cas. On ne peut pas non plus expliquer cela par un ressentiment postcolonial comme on trouve quelquefois sous la plume de certains sociologues qui sont un peu trop pressés à décrire ces phénomènes. Souvent, ce ne sont pas les spécialistes d'ailleurs de la question qui expliquent que les attentats de Paris du 13 novembre ont été la conséquence du ressentiment d'une certaine population, notamment ce qu'ils ressentaient sur les terrasses, parce qu'on les servirait pas assez vite, ou ce serait trop cher, ou ils ressentiraient une blessure symbolique.
Exclu peut-être de ces terrasses.
Tout cela, à mon avis, est un délire interprétatif qui vient d'individus qui ne connaissent pas du tout le sujet, qui ne sont pas allés sur le terrain et à mon avis qui n'ont même jamais rencontré véritablement un individu radicalisé, comme j'ai pu le faire par exemple au centre de Pontourny. Alors, par exemple, dans l'armée de Daesh, il y a plus de 70 nationalités qui sont impliquées. Donc vous voyez qu'il est extrêmement difficile d'éclairer de façon monocausale, c'est-à-dire avec une seule cause, ce phénomène. Et qu'est-ce qui est intéressant dans cette question ? C'est qu'on est confronté à un phénomène culturel multifactoriel en réalité, où en effet la dimension économique, culturelle, idéologique, etc., etc., joue sa part. Il est très difficile d'évaluer causalement quelle est la part de chacun de ces facteurs. Mais ce que je constate, c'est qu'en fonction de la lecture que vous avez envie d'avoir de ce fait. Et comme c'est un phénomène multifactoriel, vous pouvez saisir une face ou une autre. En science, on appelle ça le cherry picking, c'est-à-dire la cueillette de cerises. Vous allez à la cueillette de cerises et vous allez construire un récit qui n'est pas scientifique, mais qui est idéologique. Mais vous pourrez lui donner une certaine crédibilité.
Bon, mais alors, on s'est posé aussi des questions qui sont des questions dans le débat public. On s'est demandé d'abord quelle était la part de responsabilité de l'islam. On s'est demandé ensuite si la radicalisation avait une fonction. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'aujourd'hui on est islamiste radical comme hier on pouvait être trotskiste? Est-ce que ça remplit une fonction chez l'être humain? Vous avez, vous, sociologue, des réponses à ces questions?
En tout cas, ce sont des questions tout à fait légitimes. Et oui, justement, on peut répondre à ces questions à condition de faire de la science et pas de l'idéologie. Et en effet, on commence à avancer sur ce point. Par exemple, en analysant le profil, par exemple, en faisant une grande enquête, comme l'a fait Olivier Galland et Anne Muxel, sur la radicalisation chez les jeunes, où on voit, par exemple, que le facteur religieux est très important, plus important que le facteur économique ou le facteur de frustration.
C'est-à-dire ?
Eh bien, leurs résultats montrent, ils ont fait des analyses de régression, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais ils montrent qu'en effet, le facteur religieux est un facteur clé dans la radicalisation de ces individus, et que le facteur par exemple, de frustration relative, qui est un facteur qui existe.
Hein, frustration relative, c'est-à-dire ?
Frustration relative, c'est le sentiment tout simplement que la vie ne vous a pas donné ce à quoi vous pensiez avoir droit. C'est l'écart entre ce que j'ai et ce que je croyais que la vie me donnerait.
C'est-à-dire que finalement, ce qui inciterait ces djihadistes à passer à l'acte, c'est plus la religion musulmane, selon cette étude que vous citez, que un sentiment qu'ils n'ont pas la place qu'ils méritent dans la société.
Mais non, c'est encore plus compliqué que ça, Guillaume. Car en réalité, l'étude de Anne Muxel et d'Olivier Galland et de son équipe ne porte pas sur des gens qui sont passés à l'acte. Elle porte sur un certain nombre de jeunes gens, des lycéens, si je me rappelle bien, dont on peut détecter par l'énonciation dans une enquête des items de radicalisation. Donc c'est pas du tout des gens qui ont enfreint la loi. Donc on voit une corrélation entre les items religieux et la radicalisation, mais plus complexe encore est la question du passage à l'acte, qui est encore un grand mystère scientifique.
Mais alors, justement, c'est là où on se dit que la sociologie n'a peut-être tout simplement rien à nous apprendre là-dessus. Lorsqu'on voit, par exemple, ce djihadiste, je ne sais même pas d'ailleurs comment l'appeler, qui a poignardé deux jeunes filles sur le parvis de la gare de Marseille, on se dit qu'on a affaire à quelqu'un qui est peut-être plus du ressort de la psychopathologie que de la sociologie. On se dit qu'aucun être humain normalement constitué ne peut avoir de bonnes raisons qu'il se fournirait en interne, à l'intérieur de sa boîte crânienne, pour perpétrer de tels actes.
C'est malheureusement faux. Évidemment, on aimerait pouvoir rabattre tous ces phénomènes sur des phénomènes psychiatriques. On aimerait, parce que du coup, la solution, elle serait plus facile. Il suffirait de les soigner, entre guillemets. Et bien sûr qu'il y a des fous hein, dans le cortège de ceux qui passent à l'acte violent. Je suis pas tout à fait certain qu'ils soient aussi nombreux que ce que le ministre de l'Intérieur a déclaré sur la base de chiffres dont j'ignore l'origine, je dois dire. Mais ce que les psychiatres, que je connais assez bien, parce que vous avez rappelé que je suis désormais membre d'Académie nationale de médecine, disent sur cette question et des états de l'art, c'est que la psychopathologie, la psychiatrisation n'explique pas la plupart de ces passages à l'acte. Et que effectivement, ce qui explique la plupart de ces passages à l'acte, et là aussi un autre grand spécialiste qui est Scott Atran de ces questions, le rappelait à la tribune même de l'ONU, ce sont des gens qui sont malheureusement psychologiquement équilibrés et qui ont même un rapport normal du point de vue de la statistique, au bien et au mal. Simplement, ils sont rentrés dans une idée inconditionnelle que faire le bien, c'est par exemple nuire à la vie d'autrui pour faire respecter in fine, vous savez, la conception qui doit s'imposer du bien, en l'occurrence la conception islamique. Mais l'histoire des idées a montré, hélas, que ce type de procédure meurtrière peut venir de toutes sortes d'idéologies, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. On produit des morts par le terrorisme, toujours avec cette idée bizarre, n'est-ce pas, que l'on veut imposer aux autres la catégorie qu'on se fait du bien.
Mais alors, dans ce cas-là, quand vous prenez la tuerie de Las Vegas, ce qui est arrivé à Marseille, qu'est-ce qui pourrait vraiment relever du psychopathologique pour vous? Puisque à chaque fois, on peut, j'imagine, si on réussissait, ce qui n'est pas évident, mais ce qui a été fait parfois, à dialoguer avec ces personnes, on pourrait récupérer une sorte de motivation, de justification de ces actes. À partir de quel moment un sociologue pourrait dire, bah voilà, j'ai affaire à un fou et pas à...
Alors là, pour le coup, excusez-moi, mais ce n'est pas au sociologue de le dire, c'est au psychiatre. La psychiatrie est une science, elle établit des tests, des évaluations pour voir effectivement à partir de quand un individu est rentré dans un délire psychotique. Il y a une rupture avec la réalité qui ne permet pas de rendre compte de son acte selon des normes habituelles de l'action. Et une fois que le psychiatre a dit ça, le travail du sociologue commence.
Et le travail du sociologue, pourquoi échoue-t-il à déradicaliser ces personnes? Parce que là aussi, on nous avait vendu des centres de déradicalisation. Je crois que le dernier a fermé en France. Mmh. Ça n'a pas fonctionné. Et comment cela se fait-il si vous êtes si à même de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des boîtes crâniennes? Comment cela se fait-il que le processus ne soit pas allé jusqu'à son terme et à sa réussite?
Alors d'abord, avant de s'interroger sur la cause, assurons-nous bien du fait, rappelait Fontenelle. Alors ça, c'est un bon exemple, parce que le centre de Pontourny dans lequel j'intervenais n'a pas du tout fermé parce qu'il n'a pas produit les effets qu'on attendait de lui. Ça n'a rien à voir. Il a fermé parce qu'il était basé sur la base du volontariat, ce qui était à mon avis une erreur stratégique de recrutement, et qu'à un moment donné, ces jeunes qui étaient dans ce centre ne voulaient plus être dans ce centre, puisqu'ils étaient volontaires pour le faire. Et ça, on n'y peut pas grand-chose, ni la sociologie, ni qui que ce soit, et ça n'a donc rien à voir avec l'ingénierie qui était mise en place, dont je ne dirais pas non plus qu'elle était efficace, parce que précisément, on n'a pas eu le temps de mesurer cela. Mais de toute façon, faire le diagnostic, comprendre un phénomène et trouver des solutions à ce phénomène sont deux opérations distinctes. Les solutions trouvées relèvent plutôt de l'ingénierie, ce qui est d'ailleurs une approche assez noble, hein, la question n'est pas là, mais la science, elle, avant de s'incarner dans une ingénierie, elle cherche à comprendre les processus, elle cherche à expliquer pourquoi les phénomènes sont tels qu'ils sont. Et précisément, elle peut le faire à condition d'être une science et à condition, par exemple, de ne pas contaminer son jugement sur le vrai et le faux par les catégories du bien et du mal. Et c'est précisément un type de contamination qu'on retrouve trop souvent dans les sciences sociales.
Ça veut dire que vous pourriez très bien comprendre parfaitement, ou en tout cas comprendre partiellement, le djihadisme sans être capable de lutter contre lui ?
Ah, c'est une possibilité, bien sûr.
Mais est-ce que c'est la possibilité à laquelle aujourd'hui vous vous heurtez, Gérald
Brunet ? Non, je pense qu'il est trop tôt pour répondre à ça. En scientifique, effectivement, alors quand j'ai pris la parole sur ces questions, j'ai toujours dit que je ne pouvais assurer d'aucune efficacité de ce que nous essayons de faire. Mais tout de même, ce que nous avons essayé de faire était fondé sur la littérature scientifique. C'était pas seulement fondé sur l'intuition, etc. Mais vous savez, vous pouvez comprendre, par exemple, les phénomènes de tornades. Et ne pas pouvoir prévenir le phénomène de tornade. Vous pouvez comprendre ce que c'est qu'un tsunami et être incapable d'empêcher un tsunami. Donc la compréhension des processus, c'est une chose.
Cela touche des événements naturels. Lorsqu'on a en face à soi des hommes, peut-être que l'on peut dialoguer avec eux, en tout cas entamer un processus.
C'est ce qu'on peut espérer en effet.
On continuera à en discuter ensemble aux environs de 8h20, Gérald Brunet. Le livre que vous publiez avec Étienne Géhin, Le danger sociologique, est aux presses universitaires de France. Il est 8h sur France Culture.